magazine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 15 novembre, ravi de vous retrouver pour ce nouveau voyage à travers le temps, pour ce retour sur 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez ce magazine sur le site de la radio www.rfi.fr. Dans la seconde partie de notre rendez-vous, nous partirons pour l'Afrique, vous le savez. Rendez-vous avec vos messages aussi, bien sûr. Notre invité Pierre Bécouche, spécialiste de relations internationales, professeur de géographie économique à l'Université Paris 1, co-auteur du Grand Atlas 2015, publié chez Autrement. Bonjour Pierre Bécouche.
Bonjour.
Alors vous êtes en outre président du conseil scientifique du Collège international des sciences des territoires. Il faut s'y arrêter un instant s'il vous plaît.
Merci, c'est gentil. Ah oui, avec plaisir. C'est un outil de coopération scientifique que j'aime, qui a deux caractéristiques. D'abord, il travaille sur les territoires, mais de manière très interdisciplinaire. Donc on organise la réflexion avec les économistes, les climatologues, les médecins. Et deuxièmement, c'est un outil qui cherche à organiser l'échange entre les scientifiques et les acteurs. Et vous savez que le monde scientifique est souvent trop enfermé sur lui-même.
Oui. C'est la raison pour laquelle.
Et voilà, exactement.
Individualiste.
Et les acteurs nous le reprochent à bon droit. Et donc, on a développé cet outil pour pouvoir dialoguer de manière plus efficace avec eux.
Alors, vous êtes un spécialiste, notamment des questions de voisinage.
Oui. L'objet sur lequel je travaille beaucoup depuis quelques années, c'est la, appelons ça la grande région européenne. C'est pas bien de dire ça parce que les Maghrébins n'aimeraient pas être appelés des Européens. Ils ont une autre vision d'eux-mêmes. Mais de fait, c'est la grande région dans laquelle se trouve l'Europe et qui essaie de développer avec les pays de son voisinage une stratégie commune. Et il y a beaucoup de travail à faire parce que on est loin du compte. Et on est loin du compte, notamment parce que, on n'arrive pas à faire avec ces pays en développement et émergents et en développement ce que les Japonais ont fait avec leurs voisins émergents et en développement. Donc c'est un sujet qui intéresse les gens qui s'intéressent au monde du développement.
Alors Pierre Bécouche, dans quelques minutes, nous partirons pour le Proche-Orient notamment, mais tout de suite revenons sur les commémorations du 11 novembre en France, 100 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le reportage de Valérie Gaz.
Hommage aux poilus de la Grande Guerre, c'est ce que des jeunes élèves d'une école primaire de Bordeaux ont fait avec cette chanson interprétée devant l'anneau de mémoire à Notre-Dame de Lorette face à François Hollande. L'hommage et la mémoire, c'était aussi le premier objectif du chef de l'État lors de cette commémoration du 11 novembre.
À chaque fois que le nationalisme ressurgit, alors nous devons nous souvenir de l'engrenage infernal de l'été 1914. Et où il a conduit l'humanité.
Se souvenir, mais aussi parler du présent et de l'avenir de la France.
Notre pays a surmonté des épreuves bien plus terribles que les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Alors, la France doit élever avec ardeur son ambition productive, ne pas laisser les plus fragiles s'épuiser dans la désespérance et les plus nombreux douter de notre capacité collective à redresser la France.
À la lumière de l'histoire et des épreuves passées, François Hollande, qui sait la morosité des Français, leur a envoyé un message: il ne faut pas baisser les bras.
Sept jours dans le monde.
Pierre Bécouche, nous allons vous retrouver dans un instant, mais partons d'abord pour l'espace avec la formidable aventure de la sonde Rosetta. Alors, loin dans l'espace, sonde Rosetta et son robot Philae qui s'est posé avec succès mercredi sur la comète baptisée familièrement Curie, Simon Rosé.
Le moment est historique et c'est une belle raison pour applaudir. Le robot Philae vient de confirmer qu'il avait atterri sain et sauf sur la comète Curie. Au centre de commande de l'Agence spatiale européenne, tout le monde s'embrasse, même Paolo Ferri qui est pourtant le chef des opérations.
Everybody was moved, was excited.
Tout le monde était ému, était excité. La plupart des gens pleuraient, ils avaient du mal à croire ce qu'il venait de se passer. Mais on est très occupé à vérifier la situation, la contrôler. On n'a pas beaucoup de temps pour penser à ce moment historique. Il faut travailler.
They have to work.
Et il a fallu vite se remettre au travail, en effet, puisque les premières données reçues montrent quelques anomalies. Stéphane Oulamec est responsable de Philae.
Il y a eu de petites interruptions dans les communications. Elles ont été rétablies, mais on doit vérifier d'où ça peut venir.
Autre souci, les harpons qui devaient fixer solidement Philae à la comète n'ont pas été tirés. Ces deux problèmes laissent suggérer que le robot a rebondi lors de l'impact pour se reposer un peu plus loin. Il faudra d'abord éclaircir cela avant de commencer les expériences scientifiques.
Il faut savoir précisément où on a atterri, comment on a atterri. Si Philae est sur une pente, s'il est bien protégé du soleil, on doit analyser tout cela.
Ces données devraient être rendues publiques ce jeudi, mais en attendant, l'essentiel est sauf. Philae est posé et nous parle.
Une semaine d'actualité. Alors Philae finalement n'est pas ancrée, elle a un pied dans l'air et deux pieds sur le sol, elle est en pente semble-t-il, pas très exposée au soleil, ce qui pose un problème pour ses batteries à faible autonomie. On va commencer par cela, Pierre Bécouche, par cette aventure qui est véritablement populaire, hein, qui fait la une des médias, sans doute parce que c'est une des rares nouvelles optimistes et un succès de l'agence spatiale européenne. Succès de l'Europe.
Absolument. Oui, alors bah, sur le contenu du programme, c'est-à-dire ce que ça va nous apporter sur la connaissance de la création de la vie, de l'apparition de la Terre, je suis totalement incompétent.
C'est pas votre spécialité.
Non, mais très admiratif de ce qu'on peut tirer, de ce que les scientifiques peuvent tirer à partir de quelques éléments d'information, parce que évidemment.
Alors là, il faut rappeler que la sonde Pierre Bécouche est partie il y a 10 ans. Hein.
Oui. Alors il y a à la fois l'exploit technique, scientifique et technique pour acheminer un petit appareil comme ça à des centaines de millions de kilomètres, mais il y a surtout ensuite ce qu'on peut tirer de l'information recueillie sur place pour en déduire des transformations, enfin une représentation de l'histoire de notre monde. Ça, je suis absolument, je suis baba devant ces performances intellectuelles. Mais je suis aussi impressionné très favorablement par le succès européen.
Européen.
C'est un succès européen. C'est
pour une fois qu'il y a un succès européen, il faut le souligner aussi.
Oui, et moi je n'ai jamais été un Européen, comment dire, hormonal, en pensant nationaliste européen, non. Mais je suis petit à petit devenu un Européen convaincu, rationnellement.
De raison.
Ah oui, de raison. Mmh. Très convaincu. Et je suis frappé de la complainte perpétuelle sur l'Europe. Il y a aussi des belles réussites, il faut les dire. Et je pense que ça, ce cri signale l'envie que les Européens ont de dire que ben, l'Europe, ça marche. Effectivement, vous le dites, c'est un outil européen. Il y a un beau succès. On avait connu l'échec avec Galilée il y a quelques mois. C'est très embêtant, ces échecs. Et donc, ce succès est très, très encourageant. Non, c'est une très belle réussite politique.
Alors, je rappelle que l'Europe est une de vos spécialités aussi avec les questions de voisinage, Pierre Bécouche. Si on parlait un instant du 11 novembre, des commémorations du 11 novembre.
Oui.
100 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Voilà, et bon, les commémorations sont toujours importantes pour des raisons que chacun connaît, mais moi, ce que je vois à l'âge venant de plus en plus, c'est je prends, après tant d'autres, la mesure de ce qu'a été, la mesure, on va dire, de dimension historique, mais parmi les plus grands événements de l'histoire humaine, la réconciliation franco-allemande. Parce que
Adenauer, De Gaulle ou De Gaulle Adenauer.
De Gaulle Adenauer et au-delà d'eux, tous les promoteurs de la construction européenne, parce que avec la Chine, l'Inde, l'Europe était un des grands foyers de peuplement et ce foyer de peuplement dans l'histoire a connu des guerres terribles. Et le fait que nous ayons été capables de passer d'une situation de guerre à une situation de paix force le respect, parce que je veux dire, dans la situation actuelle, nous serions incapables de faire ça. Qui aurait la capacité d'avoir un projet de long terme, d'entraîner les populations, d'avoir le courage d'aller à l'encontre de siècles de cultures opposées, de guerres, etc. Je veux dire, quand on parle des dirigeants politiques, de leur courage, de leur capacité à voir loin et à entraîner par la clarté et l'ambition de leur projet les populations, effectivement, on peut commémorer tout ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que nos politiciens actuels auraient beaucoup à pâlir de cette comparaison. Et je dois dire aussi que l'Europe doit ses succès à cette réconciliation franco-allemande, et d'autres pays sur la planète ne sont pas capables de faire une telle réconciliation, notamment le Japon
et la Chine.
Et la puissance vraiment impressionnante de l'Asie orientale, à qui l'avenir est promis, est minée et, disons, amoindrie par cette non-réconciliation, cette absence de discussion historique profonde et de réconciliation sur le fond entre la Chine et le Japon.
Une semaine d'actualité.
Avec une surprise, mercredi, Pierre Bécouche, un accord entre la Chine et les États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique. Correspondance de Pékin signée Heike Schmidt.
Barack Obama se félicite d'un accord historique avec la Chine. De son côté, Xi Jinping a déclaré que Pékin et Washington sont déterminés à atteindre un accord à Paris en 2015. La Chine, premier pays pollueur dans le monde, se fixe l'objectif de renverser la courbe autour de 2030, c'est-à-dire que dans 15 ans, les émissions chinoises devraient cesser d'augmenter. Autre signe positif, Pékin veut augmenter l'utilisation des énergies renouvelables de 10% avant 2030. C'est la première fois que Pékin s'engage concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Jusqu'à présent, les Chinois avaient toujours insisté pour ne pas être traités comme un pays développé et industrialisé. On peut donc parler d'un signe positif, mais il faut savoir que la Chine continue à miser sur le charbon et à construire de nombreuses nouvelles centrales thermiques. Aujourd'hui, la Chine représente la moitié de la consommation mondiale de charbon.
Suite d'une semaine d'actualité, il y a 10 ans, en 2004, donc, mourait Yasser Arafat, un anniversaire commémoré, bien sûr, à Ramallah. Correspondance de Nicolas Roper.
Ils sont plusieurs milliers réunis sous des haut-parleurs hurlants dans la cour de la Moukata, où siège le gouvernement palestinien. Drapeau du Fatah, le parti créé par Yasser Arafat, et portrait du premier président palestinien sont distribués aux participants. Pour ces militants, admirer Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, l'actuel président, est une évidence.
Je suis venu parce que Arafat, c'était le chef de la Palestine. Il est très important pour tout le peuple palestinien. Aujourd'hui, nous avons Mahmoud Abbas. Bien sûr qu'il est à la hauteur, bien sûr.
Après quelques discours de responsables politiques, Mahmoud Abbas s'avance au pupitre. Le président de l'autorité palestinienne s'en prend à la politique israélienne, notamment sur Jérusalem. Mais il réserve ses mots les plus durs au Hamas, le parti islamiste, qui soutient pourtant l'actuel gouvernement.
À peine ce gouvernement d'union avait-il été décrété qu'ils ont kidnappé 3 colons israéliens. Pour quelle utilité ? Ce n'était pas une bonne solution. Et la guerre à Gaza, quels sont les résultats pour le peuple ? Plus de 2000 morts.
Le Hamas a dénoncé un tissu de mensonges, d'insultes et de désinformations. Cet épisode constitue l'événement le plus grave entre les deux factions depuis leur réconciliation en mai dernier.
Sept jours dans le monde.
Et nous devons reparler de l'Ukraine, Pierre Bécouche, car à l'est du pays, la situation s'est encore tendue davantage ces derniers jours entre les séparatistes soutenus par Moscou et les forces ukrainiennes. À New York, le Conseil de sécurité s'est réuni une énième fois. Correspondance de Karim Lebourg, mercredi.
C'était la 26e réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine et toujours la même atmosphère de guerre froide. Les États-Unis ont demandé cette réunion pour dénoncer l'attitude de la Russie qui continue, disent-ils, d'armer les rebelles malgré le plan de paix de Minsk. Hier, les observateurs de l'OSCE ont vu 43 véhicules militaires banalisés à l'est de Donetsk, dit l'américaine Samantha Power. L'OTAN a observé des colonnes d'équipements russes, des tanks et des troupes entrant en Ukraine ces dernières 48 heures. La Russie parle de paix, mais continue d'alimenter la guerre. La situation est jugée suffisamment sérieuse pour que le représentant de l'ONU parle d'un risque de guerre totale en Ukraine. L'autre possibilité, dit-il, est celle d'un conflit gelé dans l'est de l'Ukraine qui peut continuer pendant des années ou des décennies. L'ambassadeur russe, de son côté, a balayé les critiques, les qualifiant de propagande.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Pierre Bécouche, co-auteur de ce grand atlas 2015. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Vous bouillez, je le vois. D'abord, l'accord entre la Chine et les États-Unis, présenté comme historique. Sur le réchauffement climatique.
Oui, je pense qu'on a raison de dire que c'est historique parce que la Chine ne s'était jamais engagée. On se rappelle qu'à Copenhague, les discussions portaient sur le réchauffement climatique au cours du siècle, 2%, 3%, 4%, 5%. Mm-hmm. Les Chinois ne bougeaient pas parce qu'ils étaient tranquilles à 4, 5, 6%, disaient-ils, pensaient-ils. Ils pouvaient encore développer leur activité alors qu'ils savaient que les Occidentaux seraient en grande difficulté. Et donc, ils ont eu une position de blocage, en fait, des négociations. Et tout le monde connaît aussi le non-engagement des États-Unis. Donc, c'est une double nouveauté historique. Et c'est comme pour l'Europe, les domaines dans lesquels il y a petit à petit un possible consensus mondiales sont suffisamment peu nombreux pour qu'on s'en félicite. Donc c'est tout à fait bien. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, parce que la rencontre s'est placée dans le cadre de l'APEC, c'est-à-dire la coopération économique entre le Pacifique, entre les États-Unis, si vous voulez, les pays américains, mais surtout les États-Unis et les pays d'Asie orientale. Donc, l'objectif est de trouver un modus vivendi avec, pour les États-Unis, avec la Chine, et de traiter toutes les questions de cybercriminalité, les géopolitiques, militaires, droits de l'homme, la question de Hong Kong, et bien sûr, le rapport de force économique entre les deux membres de ce qu'on peut appeler le G2. Donc,
alors que le G20 se réunit sous cadre, entre parenthèses.
Oui, le G20, oui, c'est utile, mais on a peur que le G2 ait beaucoup plus d'impact sur l'avenir du monde que le G20. Et donc, ça veut dire que ces discussions climatiques sont sans doute pas centrales dans les échanges entre les deux grands. Mais enfin, il faut se féliciter de ces échanges. Si je peux rajouter un mot, je dirais que en matière de changement climatique, nous, Français, devons avoir l'œil sur la conférence des parties de la Convention cadre sur le changement climatique qui aura lieu à Paris en décembre 2015.
Bien sûr,
oui. Oui, parce que ça va être le point de rencontre de toutes ces négociations climat. Et on peut espérer qu'un traité engageant tous les pays du monde sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre soit signé l'année prochaine. Donc, c'est une affaire qui nous intéresse. Mais il y a un deuxième aspect qu'il faut avoir en tête. On est très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre les gaz à effet de serre, c'est très bien. Mais on ne peut véritablement avancer qu'en discutant surtout avec les pays en développement, parce que c'est ce que dit votre reportage. La production d'émissions maintenant, historiquement c'est pas le cas, c'est nous qui avons pollué l'atmosphère, mais actuellement, la production d'émissions, c'est les pays en développement.
La Chine, l'Inde,
tous,
par exemple.
La Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, c'est ça les plus gros pollueurs. Et ça va encore augmenter dans les années à venir. Ce qui veut dire que les relations Nord-Sud n'ont jamais été aussi importantes. Et peut-être qu'il faudrait mettre moins l'accent, je vais pas me faire des amis là, sur les baisses d'émissions des pays industriels, y compris de la France, faut continuer. L'efficacité énergétique, très bon thème. Mais peut-être que le thème le plus important pour la lutte contre le réchauffement, c'est l'amélioration des relations Nord-Sud.
Les tensions en Ukraine, ça c'est un dossier que vous suivez de très près depuis le début, même avant le conflit. Que
oui,
peut-on dire aujourd'hui
que...
Parce qu'on a l'impression que de semaine en semaine, on parle de durcissement.
Oui, dans le cadre des réflexions sur le voisinage de l'Europe, on travaille sur l'Ukraine. Et ce qui nous est apparu très vite, c'est que l'Ukraine était un pays d'interface entre l'Europe et la Russie. Et compte tenu des intérêts réciproques de l'Ukraine et de la Russie, il est impensable d'imaginer que l'avenir de ce pays puisse se faire sans la Russie. Or, là, telle que la crise s'est déroulée, tout le monde a perdu. Les Européens, les Ukrainiens, les Russes. Pourquoi ? Parce que les Européens sont incapables d'avoir une relation stratégique avec la Russie. Et pourquoi sont-ils incapables d'avoir une relation stratégique avec la Russie ? Parce qu'ils n'ont pas de politique énergétique européenne commune.
Et ça, c'est pour vous le nœud du problème.
Eh oui, parce que tant qu'on n'a pas de politique énergétique commune, on ne peut pas dialoguer avec la Russie. Et donc la Russie fait ce qu'elle veut. Et c'est un jeu à somme négative. Et qui est le grand gagnant de cette histoire malheureuse ukrainienne, qui est là pour durer, ça je suis d'accord.
Pour vous, ça va durer.
Ah ben oui. Oui, parce que objectivement, l'Est de l'Ukraine, c'est une situation régionale particulière, très liée à la Russie, et indépendamment des interventions extérieures, il y a là un problème assez complexe que l'Union européenne a méconnu. Et elle a agi de manière un peu légère sur cette question-là. Donc Poutine est Poutine, on connaît, les Européens n'ont pas été bons sur l'affaire, ceux qui perdent, c'est les Ukrainiens, ceux qui gagnent sont les États-Unis et le Chinois, vive le G2.
Une affaire qui a surgi après l'histoire de la Crimée aussi, hein, dans un contexte déjà tendu.
Disons que la Crimée... Si vous voulez, les Russes disent, nous ne voulons pas que les Ukrainiens rentrent d'abord dans un grand accord économique avec l'Europe, l'accord d'association. Nous voulons qu'ils rentrent d'abord dans un grand accord économique avec la Russie qui s'appelle l'Union douanière. Et le pouvoir ukrainien, en novembre 2013, dit non, je vais signer avec les Européens. Mmh. Les Russes rentrent en Crimée.
Pierre Bécouche, nous avons marqué une pause pour écouter quelques informations de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. Alors, à tout de suite. Merci pour ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre 7 jours d'événements avec les correspondants et les envoyés spéciaux de RFI.
Une semaine d'actualité.
Notre invité, Pierre Bécouche, spécialiste de relations internationales, géographe, professeur à l'Université Paris 1, co-auteur du Grand Atlas 2015, publié chez Autrement, avec d'ailleurs RFI. Dans quelques minutes, l'Afrique nous occupera avec des escales au Burkina Faso et au Tchad, par exemple. Mais tout de suite, Pierre Bécouche, comme nous le faisons chaque samedi au début de la deuxième partie de ce rendez-vous, la France. Nous allons parler d'abord d'un psychodrame politique de ces derniers jours, le déjeuner de Jean-Pierre Jouyet, ci-devant secrétaire général de l'Élysée, et de François Fillon, qui s'y verrait bien à l'Élysée. Déjeuner au cours duquel l'ancien Premier ministre UMP aurait demandé une procédure judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Jouyet a d'abord nié avoir déjeuné, avant de retrouver la mémoire. Florent Guignard, lundi.
La pression était sur Jean-Pierre Jouyet après un long silence embarrassant et tout un week-end où l'Élysée était aux abonnés absents. Le secrétaire général de l'Élysée devait éteindre l'incendie qui risquait d'atteindre François Hollande. Il confirme finalement sa première version, celle qu'il avait livrée en septembre aux deux journalistes du Monde. Oui, François Fillon lui a bien parlé de l'affaire Big Malion et du paiement par l'UMP de l'amende infligée au candidat Sarkozy. Jean-Pierre Jouyet précise avoir alors indiqué à François Fillon que l'Élysée ne pouvait rien s'agissant de cette procédure relevant de la justice. Officiellement, il n'y a plus d'intervention du pouvoir sur la justice. Le secrétaire général était en fait dans une situation intenable puisque ses déclarations aux deux journalistes du Monde en septembre avaient été enregistrées. Ce faisant, avec sa dernière déclaration à l'AFP, Jean-Pierre Jouyet confirme aussi implicitement qu'il a menti jeudi dernier lorsqu'il a démenti les propos que les deux journalistes du Monde lui prêtaient dans leur livre « Sarko s'est tué ». C'est désormais sa parole contre celle de François Fillon. Le mystère est encore loin d'être levé.
On n'en sait plus sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse, le jeune manifestant tué lors d'affrontements avec des gendarmes mobiles sur le chantier du barrage de Sivens. Guillaume Deltaï.
Lors d'une opération de maintien de l'ordre, chaque escadron de gendarmerie filme son intervention. Ce sont ces images qui ont été analysées en interne et le procès-verbal auquel Le Monde a eu accès souligne que les gendarmes n'ont pas mis plus de quelques minutes à réaliser ce qui venait de se passer. Il était entre 1h40 et 1h50 du matin ce 26 octobre lorsqu'une grenade offensive est lancée en l'air en direction de quelques jeunes en prise avec les forces de l'ordre. Des gendarmes voient alors Rémi Fraisse tomber, mais il est décidé de ne pas aller le chercher tout de suite. Le jeune homme ne bougeant plus, les forces de l'ordre changent d'avis 7 minutes plus tard. Il est alors 2h du matin et c'est à 2h03 qu'un gendarme s'écrie « Il est décédé le mec, là c'est vachement grave, faut pas qu'il le sache ». Un « il » qui renvoie aux jeunes qui lançaient pierres et mottes de terre sur les forces de l'ordre, assure la gendarmerie, qui nie toute volonté de cacher la vérité. Le procureur, souligne-t-elle, a d'ailleurs été prévenu dans les minutes qui ont suivi, mais il faudra attendre encore 2 jours pour que les causes de la mort soient communiquées.
Et les grenades offensives ont été interdites par le ministère de l'Intérieur.
Sept jours en France.
Un petit clin d'œil maintenant avec l'inauguration de la nouvelle maison de la radio qui fête ses 51 ans, un lieu mythique au cœur de Paris, un lieu qui fait peau neuve depuis des années. La maison ronde, temple des radios publiques qui s'adresse à la foule secrète des esprits, comme le disait le général de Gaulle en décembre 1963, Sarah Tisser hier, vendredi.
places en cercle autour de l'orchestre et une acoustique haut de gamme. Le nouvel auditorium est le fleuron de la rénovation pharaonique lancée à la Maison de la Radio. Les deux grands orchestres de Radio France y reprennent ce soir officiellement leur quartier avec un grand concert pour l'inauguration. Ça n'était pas gagné. Les musiciens qui redoutent à terme une fusion de leurs deux formations s'étaient mis en grève le mois dernier. Et puis il y a eu cet incendie qui n'aura pas réussi à compromettre la fête. Le feu s'était déclaré il y a 2 semaines au 8e étage, une partie de la maison ronde encore en travaux. Des travaux prévus pour durer jusqu'en 2016, montant total de ce vaste chantier lancé il y a 6 ans, plus de 350 millions d'euros pour désamianter et rénover 60 000 mètres carrés de locaux, dont les grands halls et 38 studios d'antenne. Le mythique studio 104, notamment, a fait peau neuve. Il accueille lui aussi des concerts ce week-end et une vaste allée qui sera ouverte au public traverse désormais le bâtiment rond de part en part.
Alors si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller visiter la nouvelle maison de la radio. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Bécouche, géographe, président du conseil scientifique du Collège international des sciences du territoire. Oui, je l'ai cité une autre fois, Pierre Bécouche, vous appréciez. Il faut dire un mot quand même du Grand Atlas 2015, de l'avantage des atlas.
Oui, on le voit, nous sommes depuis quelques années pris dans un tsunami d'informations et ceux qui seront capables d'organiser cette... Alors, bien sûr, les médias le font, mais il y a beaucoup à imaginer pour organiser cet océan d'information afin de faire se rencontrer les acteurs, les décideurs, les usagers, les citoyens. Et la cartographie, l'analyse des territoires est une façon de rendre cette information multiple, lisible et compréhensible par un nombre, une grande diversité d'acteurs. Et je prédis un grand avenir donc à ces formes d'expression cartographique.
Et vous pouvez vous en préparer un autre, Pierre Descouches, Atlas, oui, Atlas des voisinages.
Exactement, oui, nous sortons là d'un gros projet européen de cartographie des voisinages de l'Europe. L'Union européenne a mis de l'argent pour essayer de savoir ce qui se passait à ses frontières, et donc c'est une très bonne chose. On en sait un peu plus sur l'Ukraine, la Russie, la Turquie, le Maroc et l'Égypte, et nous allons publier l'Atlas de ce projet au cours de l'année 2015.
J'ai oublié de vous poser une question sur l'affaire Jouyé-Fillon.
C'est pas grave si vous avez oublié, parce que c'est tellement dérisoire par rapport au sujet que vous avez évoqué que je prédis des événements politiques très imprévus dans ce pays, parce qu'on a atteint une telle dégradation du débat public. On est tellement loin des vraies questions, des grandes réformes qu'il faut pour le pays, du projet européen, que évidemment ça va se retourner contre le pays.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir, Pierre Descouches, pour l'Afrique. D'abord, pour le Burkina Faso, les discussions sur le projet de charte de transition se sont poursuivies ces derniers jours et elles ont abouti à un accord jeudi. Correspondance de Ouagadougou, signé Yaya Boudani.
Le Conseil national de transition sera un organe délibératif et il sera dirigé par une personnalité civile. Sa composition est la suivante. 30 sièges pour les partis politiques de l'ex-opposition, 25 sièges pour la société civile, 25 sièges pour les forces de défense et de sécurité et 10 sièges pour les partis politiques de l'ancienne majorité. Le CNT sera l'un des organes essentiels au cours de cette période de transition qui va s'ouvrir au Burkina Faso, selon Ablassi Ouédraogo du parti Le Faso Autrement.
Si vous prenez simplement le budget que les députés de l'Assemblée nationale dissoute devraient adopter, il faut qu'une structure fasse ça. Et c'est le CNT qui va faire cela. Il y a des conventions de financement, il y a des accords de partenariat qui nécessitent des ratifications. Le CNT va faire cela.
Pour les organisations de la société civile, cette transition est l'occasion idéale pour procéder à des réformes politiques et institutionnelles à travers le CNT. Mathias Tankwano, du Réseau africain des droits de l'homme, section du Burkina Faso.
Cette transition, les autres pays l'ont connue dans les années 90-90 à travers les conférences nationales. Le Burkina n'a pas connu parce qu'ils ont anticipé pour constitutionnaliser en réalité en guillemets le Front populaire, qui était un régime d'exception. Donc, nous profitons de cette transition pour justement bâtir réellement une démocratie et prendre un nouvel élan.
Le président du Conseil national de la transition n'est pas éligible aux prochaines élections présidentielles et législatives qui mettront fin à la transition.
À suivre donc, suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Pierre Descouches, et nous allons reparler de la CAN qui n'aura pas lieu au Maroc finalement. Le gouvernement du pays a dit non par crainte de l'épidémie de fièvre Ebola. Écoutez ces réactions de Marocains de Casablanca avec le reportage de Sarah Doublier.
Dans un café du centre-ville à Casablanca, on commente le bien fondé de la position marocaine et les avis sont partagés.
Le CAN, ça va passer et la maladie, ça va rester longtemps.
Bah, la position du Maroc qui avance Ebola, elle a un certain nombre d'incohérences et puis la CAF l'a bien signalé. C'est l'hébergement d'équipes issues des pays touchés ici, juste à côté de nous d'ailleurs. Ça rend la chose un peu compliquée à comprendre parce qu'on a l'impression que ce problème aurait pu être géré. Voilà, c'est l'impression qu'on a.
Une mauvaise gestion pointée du doigt pour des conséquences sportives et financières encore incertaines, notamment si la CAF décide de sanctionner le Maroc. Lino Bacco dirige Radio Mars, principal média sportif marocain.
C'est un coup de massue. Ça veut dire que pendant une certaine période, le football marocain va être mis au banc. Ça veut dire pas de participation aux grandes joutes internationales, Coupe d'Afrique, éliminatoires de Coupe du Monde, Jeux Olympiques.
Le bras de fer entre le Maroc et la CAF devrait se poursuivre sur le plan juridique, selon le juriste Reda Oulamine.
Aujourd'hui, le Maroc affirme qu'il ne s'est pas désisté, mais il ne demande qu'un report pour des raisons qu'il qualifie de force majeure. Donc il appartiendra à ces deux parties-là, soit de trouver un accord, soit éventuellement les parties transmettront ce litige au tribunal arbitral du sport.
Report ou désistement, tel devrait être l'enjeu de la future bataille juridique entre le Maroc et la CAF.
Et la compétition aura finalement lieu en Guinée équatoriale.
pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire, y compris à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour par exemple à Oumar et à tous les membres de l'Association des Jeunes pour le Développement en Afrique, la JDA. Bonjour à Delvi, à Pointe-Noire. Il écrit « Un monde sans info est un monde sans bonne perspective ou sans avenir ». Il a raison. Bonjour à Elisère, à Brazzaville. Bonjour à Eladji, à Matadi, au Niger. Un salut à Rodolphe et Benjamin, à Cotonou, à Patrick, à Libreville. Enfin, je dis bonjour à Diallo, à Conakry.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre voyage avec vous, Pierre Bécouche, pour continuer à parler de l'actualité internationale, de ce grand atlas 2015 et des questions qui sont les vôtres sur le voisinage, les grandes questions d'intégration également. Un mot sur la CAN et sur l'importance du football comme phénomène géopolitique finalement aujourd'hui.
Oui, ça. Phénomène d'une très grande ampleur. C'est finalement l'information la plus partagée par les habitants de cette planète. On en pense ce qu'on veut, les jeux du cirque, ou au contraire, bon, oui. L'excellence et la confrontation des cultures. Moi, j'adore le foot. Mais je pense que ce que disait la personne interviewée à Casa était très juste. Il disait que selon lui, le Maroc aurait pu maîtriser les flux migratoires et vérifier les problèmes sanitaires des migrants. Je pense que ces grands événements sportifs, très diffusés par la télévision, devrait être l'occasion d'un bien plus grand investissement des différentes médias et spécialistes et du débat pour mieux connaître les réalités. Par exemple, les relations entre le Maroc et l'Afrique occidentale sont des relations fondamentales. Donc, la question d'Ebola et de la mobilité des personnes en Afrique de l'Ouest et Maroc est une question qui va très au-delà de la CAN. Donc, il faudrait profiter d'un grand événement médiatique comme celui-là pour porter l'attention sur des enjeux qui intéressent, et pas simplement les Africains, qui intéressent également l'Europe.
On parlait aussi, Pierre Bécouche, de la question de la démocratie en Afrique aussi.
Bien sûr, absolument. Et du développement, et la capacité de ces pays à mener des politiques publiques sanitaires comme nous pouvons le faire, j'espère, pour contrer Ebola. Mm-hmm. On voit bien dans cette histoire d'Ebola que ce qui se passe entre la Guinée, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest en général et le Maroc intéresse au premier plan l'Europe et la France.
Alors, vous êtes un spécialiste de géographie économique. Un mot sur ce qu'est la géographie économique, précisément.
C'est l'analyse des stratégies des acteurs, les stratégies spatiales des acteurs.
Spatiales, ouais.
Oui, et parce qu'on s'occupe d'espace, nous autres géographes. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça devient immédiatement une question géopolitique, parce que depuis une ou deux décennies, le champ économique est devenu plus important qu'avant dans les rapports de force internationaux. Et donc ça veut dire que la géopolitique prend une tournure géoéconomique croissante.
Alors c'est évoqué d'ailleurs dans cet atlas, l'importance de la mondialisation économique, sous tous ses angles, sous tous ses aspects.
Voilà, et je crois que ce serait une erreur, c'est ce que je ne cesse de dire à mes étudiants, parce qu'en France, il y a un biais anti-économie. On le connaît mal, ou on n'aime pas, parce qu'on pense que l'économie c'est le business c'est les profits c'est mal. Je leur explique à quel point on ne peut pas séparer l'économie de la politique et des enjeux sociaux, et que ce qui se passe sur ce champ des rapports de force économique a des implications politiques, culturelles, fondamentales.
Alors il y a quand même un aspect qui est très important dans cette question économique au sens large, c'est la question des villes aujourd'hui dans le monde, l'importance des villes. On en parlera demain dans Idées avec Michel Lusseau. Vous êtes d'accord avec évidemment ce...
Ah oui.
Ce point de vue-là.
Oui,
les villes, il y a un chapitre consacré aux villes dans cet atlas, les villes têtes de pont de la mondialisation.
Mais bien sûr, parce que les villes... Alors, si vous me donnez 3 ou 4
bien
heures,
sûr.
Je peux répondre.
3 mais... ou 4 minutes.
Mais vous avez bien raison de consacrer des émissions à la question des villes, mais pour dire vite, les villes sont pas les seules, mais les lieux types où l'innovation sociale, l'innovation environnementale, les grands enjeux économiques, sociaux et environnementaux se posent. Donc, pour comprendre ces enjeux et réussir à les maîtriser, il faut s'intéresser aux villes.
Mais est-ce qu'il y a pas maintenant une coupure, en quelque sorte, du monde entre les villes et le reste ? Non.
Plutôt non, parce que la révolution de la mobilité fait qu'il est de moins en moins possible d'isoler les villes, notamment les grandes villes, du reste des territoires. Donc, il faut à la fois penser ces territoires spécifiques que sont les grandes villes et cesser de les voir comme des ennemis du développement, et en même temps penser leur interaction avec le reste du territoire.
Alors, je reviens sur cette question de voisinage. Elle concerne la France, l'Europe, elle concerne le monde entier.
Oui, absolument. C'est une. La formule est la suivante. Avec l'économie de la connaissance, qui est un radical changement, le voisin, au lieu d'être l'ennemi héréditaire militaire.
Qui est souvent le cas d'ailleurs.
Oui. Et oui, ça fait quelques milliers d'années que c'est comme ça, où on se bat avec lui pour avoir accès aux ressources, devient, puisque maintenant les ressources sont largement produites, un partenaire pour coproduire les ressources. Et donc, le voisinage, la relation avec le pays qui est à côté,
voisinage d'intérêt, en fait.
Voisinage d'intérêt, mais aussi de culture, de projet. Le voisin figure le partenaire privilégié. Et on voit ça, on a vu ça en Europe. France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, etc. Et maintenant, on voit ça en Amérique du Nord, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et l'Amérique latine. Et on voit ça, on ne peut pas comprendre le boom de l'Asie orientale sans comprendre cette politique de voisinage réussie entre le Japon et ses voisins.
Le problème, c'est qu'en Afrique, ça ne marche pas très bien.
Il y a quand même des réussites. Vous savez, il y a une libre circulation en Afrique de l'Ouest. Oui. On en parle à travers Ebola, mais aussi un partenariat monétaire et commercial. Donc, il y a des éléments de succès, on aurait tort de passer sous silence ces succès, et de toute façon, ils s'y mettent parce qu'ils savent bien que les marchés isolés sont trop petits. Ça ne veut pas dire qu'il faille ouvrir les marchés à tous les vents, mais ça veut dire que les solutions, compte tenu de ce que sont les rapports de force internationaux et notre G2, Chine, États-Unis, les rapports de force internationaux sont tels que maintenant on ne peut pas faire tout seul. Donc les pays isolés sont condamnés à trouver des partenariats sur une base régionale plus large.
Et nous allons continuer notre voyage en Afrique, Pierre Bécouche, au Tchad, cette fois où il y a eu ces derniers jours des manifestations contre la vie chère dans trois villes, dont la capitale N'Djamena. Sonia Rollet.
D'abord à Sar, dès 4h du matin, concert de casseroles pendant près d'une heure. Et puis dans la matinée, les jeunes surtout sont descendus dans les rues, barricades, marchent sur des bâtiments officiels. Les forces de l'ordre ont tiré à plusieurs reprises, faisant au moins 2 blessés. À N'Djamena, ce sont les lycéens et les élèves qui ont manifesté en soutien à leurs enseignants. Là aussi, des gestes de colère avec des véhicules brûlés et des coups de feu des forces de l'ordre entendus aussi dans la matinée. Pas de bilan officiel, mais on parle de plusieurs blessés de part et d'autre. À Moundou, enfin, le message était encore plus clair puisque c'est la station-service totale qui a été saccagé et des camions-citernes attaqués, un mort à déplorer, écrasé justement par l'un de ces camions. À la mi-journée, les forces de l'ordre qui par endroits avaient été débordées ont repris le contrôle de la situation, arrêtant des dizaines de personnes qui pour beaucoup ont été relâchées depuis. Tous les manifestants interrogés par RFI disent avoir avant tout protesté contre ces pénuries d'essence. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, dit l'un d'eux. L'essence est distribuée à des privilégiés qui la revendent trop cher. La pénurie est organisée pour les enrichir, assure un autre manifestant. Pour l'association de défense des consommateurs du Tchad qui dit avoir été pris de court par ce mouvement, il faut que le gouvernement agisse au plus vite pour éviter l'explosion sociale.
Suite d'une semaine d'actualité, revenons sur les commémorations du 11 novembre de la fin de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle des soldats congolais ont été tués. Plus de 20 000 d'entre eux ont laissé leur vie sur le champ de bataille, comme on dit. Kinshasa mardi, correspondance de Léa Lisa Vesterhoff.
C'est une mélodie depuis longtemps oubliée, celle d'une marche militaire jouée à l'époque par la force publique, le nom qu'avait l'armée congolaise jusqu'à la décolonisation en 1960. Comme toutes les armées coloniales, le Congo a largement participé à la Première Guerre mondiale qui s'est jouée en Afrique. Pour la première fois, une exposition retrace cette histoire, méconnue par les Congolais eux-mêmes, comme l'explique Isidore Ndaiwel, professeur d'histoire.
Certaines de nos chaînes de télévision, ils ont repris ce qui se dit, ce qui se passe en France, sans y ajouter un seul mot sur les Congolais, de bonne foi, parce qu'ils n'en savent rien. Et justement, en voyant tous les grands chiffres de personnes qui sont mortes, et il faudrait qu'on rappelle tous ces éléments.
Des chiffres terribles, 20 000 soldats congolais tués et des milliers de porteurs dont personne ne connaît le nombre, décimés par la guerre et la maladie. Un sacrifice immense pour une population généralement enrôlée de force. Mais une histoire de bataille victorieuse aussi contre les Allemands, dont Elikiam Bokolo, professeur à l'université de Kinshasa, aimerait que les Congolais se souviennent.
Avant la force république et l'armée qui assassine Lumumba, qui tape sur les insurgés, etc., il y a eu la force république capable de faire respecter le territoire congolais, capable de gagner la bataille du Rwanda et du Burundi contre les Allemands, et on a même battu les Allemands au Tanganyika.
Dans le hall du Parlement, de grands panneaux, reproduction d'archives, retracent cette histoire largement méconnue. Il leur a fallu 100 ans pour que Kinshasa rende hommage à cet effort de guerre. Un bémol toutefois, cette exposition a été réalisée par la Belgique, ancienne puissance coloniale.
Alors vous avez entendu notre ami Elika Mbokolo qui présente, il faut le rappeler, chaque dimanche sur cette antenne, l'excellente émission Mémoire d'un continent. Et rappelons que sur 9 millions d'hommes mobilisés par la France entre 1914 et 1918, 500 000 étaient des combattants originaires d'Afrique. À noter aussi dans l'actualité africaine la fin de l'état d'urgence au Libéria. Il avait été instauré pour lutter contre Ebola, on en parlait tout à l'heure avec vous, Pierre Bécouche. La situation dans le pays s'améliore un petit peu. Suite et fin d'une semaine d'actualité. Vous vouliez insister, Pierre Bécouche, sur l'importance de l'Afrique pour la France et pour l'Europe en général.
Oui, et pour moi, parce que parmi les combattants, il y avait mon grand-père paternel. Donc, voilà. Des collègues géographes du Collège international des sciences du territoire ont fait un très intéressant travail pour dessiner les régions du monde. Après tout, on parle de grandes régions, mais quelles sont-elles? Et il n'y a pas que le commerce, il y a aussi la proximité culturelle et historique et linguistique. Et quand on tient compte de tous ces indicateurs, ce qu'on voit apparaître évidemment, c'est que la région dans laquelle l'influence, la proximité vis-à-vis de l'Europe est la plus grande, ce sont les voisinages, les médias et l'Afrique. Et donc, la leçon stratégique qu'ils ont tirée, à mon avis, à bon droit, c'est de dire que l'intérêt pour l'Europe est d'investir ses voisinages. Bien sûr, il faut être présent sur les marchés lointains, américains, d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est, mais il est évident qu'une grande partie de l'avenir de l'Europe, et de la France en particulier, se jouera sur sa région de proximité historique, culturelle et géographique.
Alors il y a un grand débat, c'est pas à vous que je vais le dire, Pierre Bécouche, sur l'avenir économique du continent africain. Certains sont optimistes, d'autres plus réticents. Vous faites partie d'un camp ou...
Non, parce que je connais pas assez les réalités africaines. Ce qui est frappant dans les évolutions récentes, c'est la rapidité des évolutions et des transformations. Et donc, quand on prend la France et l'Allemagne, même structure, on voit un qui a réussi, disons-le vite, et l'autre qui échoue. Et donc, ça veut dire qu'en une génération, on peut avoir des trajectoires très différentes. Et donc, l'avenir est très ouvert. Et un des facteurs de l'équation africaine, ça sera la capacité des Européens de définir une stratégie Europe-Méditerranée-Afrique.
Vous y revenez toujours à l'Europe, on sait que c'est pour vous un domaine prédominant.
Oui, mais même pour l'Afrique, parce que d'ailleurs ils le font en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne. Les décideurs vont avoir des choix à faire. Veulent-ils travailler avec les Chinois? Et là, tout est ouvert. Ok, très bien. Mais c'est pas le même modèle de développement. Mais encore faut-il que l'offre des entreprises et des institutions publiques européennes, sur le plan économique, culturel, sur le plan de l'enseignement supérieur, il faut que l'offre de partenariat soit de grande qualité et qu'on traite ces acteurs vraiment comme des partenaires de niveau égal au nôtre. Si nous sommes capables de faire cette offre-là, je pense que l'Afrique pourra rejoindre notre vision, notre façon de faire, et nous pourrons nous rapprocher de la leur.
Alors terminons sur cette notion d'atlas, enfin sur le rôle des atlas. Moi je trouve toujours formidable le rôle qu'ont les cartes, aujourd'hui surtout.
Oui.
Elles sont formidablement bien faites.
Oui, il faut les rendre encore meilleures. Il faut surtout, je crois que le front pionnier de la question de la cartographie, c'est la carte interactive et l'utilisation de la carte dans le débat public. Oui. Donc ça veut dire que les outils web et la mobilisation de la cartographie, la capacité de changer la représentation, les données, le zoom sur telle ou telle ville ou telle région, doivent faire partie de la boîte à outils des acteurs qui veulent avoir une information partageable avec les gens avec qui ils doivent travailler.
C'est ce que font vos étudiants, non?
On les forme à ça, on essaye de prendre notre place dans cette grande question des territoires qui est une question très transversale et importante.
Merci Pierre Bécouche. À lire donc le Grand Atlas 2015 publié chez Autrement avec le soutien de RFI notamment. Vous reviendrez nous parler de l'Atlas du voisinage?
Quand vous voulez.
Quand il sera fait, surtout.
L'été prochain.
Merci, tout est prévu. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée et nous allons vous proposer le premier de trois numéros en liaison avec le festival Mode d'Emploi, un festival des idées qui se déroule à Lyon et dans la région Rhône-Alpes à partir de lundi pour deux semaines. Nous vous proposerons donc deux magazines Idées de là-bas et l'édition d'une semaine d'actualité du 29 novembre prochain, donc dans deux semaines. Premier des trois numéros donc avec un géographe, un autre géographe, c'est le week-end des géographes, j'en suis ravi, co-organisateur de Mode d'Emploi, Michel Lussault. Avec lui, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs.
Avec... Bien sûr, et je l'apprécie beaucoup.
Ah bah ça tombe bien, avec lui nous parlerons de la ville à l'heure de la mondialisation, on y revient demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.